Vous écoutez On lit pour vous.
Avec Nadia Ferrouki, un tour du monde du matriarcat. Une entrevue réalisée par Sabine Panet, parue le 1er juillet 2026 dans le magazine Axel. La photographe et reporter française Nadia Ferrouki, dont l'une des photos a fait la couverture d'Axel, numéro 227, signe le deuxième volet de son travail consacré au matriarche. 8 nouvelles étapes d'un tour du globe extraordinaire, invitation à nous décentrer du regard masculin et occidental, à découvrir les espaces de liberté et de résistance que les femmes expérimentent dans ces communautés humaines à la longue histoire. Quels sont les mots importants à connaître quand on s'intéresse au sujet de votre ouvrage? Quelle est en particulier la différence entre une société matriarcale, matrilocale ou matrilinéaire? Concernant le matriarcat, il y a deux écoles de pensée. D'un côté, des anthropologues et ethnologues, en particulier, qui disent que le matriarcat n'a jamais existé, comme Françoise Héritier, anthropologue et féministe française, 1933-2017, note de la rédaction, que j'ai eu la chance de rencontrer au début de mon travail. D'autres pensent le contraire, comme la chercheuse allemande Heidi Göttner-Abendroth. Cela dépend de la définition qu'on adopte. Si on pense que le matriarcat est l'inverse du patriarcat, que cela désigne des sociétés où la femme domine, alors oui, en effet, cela n'a jamais existé. Mais dans le matriarcat tel que je le documente dans mes livres, en tant que reporter, pas en tant qu'anthropologue, il n'y a pas de domination des femmes sur les hommes, comme dans les sociétés patriarcales où les hommes dominent les femmes. Les sociétés matriarcales sont bien plus égalitaires. Quant au mot « matrilinéaire », Françoise Héritier l'emploie pour qualifier des sociétés dans lesquelles la descendance est transmise par les femmes, où ce sont les filles qui héritent des biens, de la terre, de la maison et ont la responsabilité économique. Les enfants, garçons comme filles, portent le nom de leur mère ou du clan de leur mère. Enfin, par société matrilocale, on veut dire que l'homme quitte son clan pour s'installer dans le clan de sa femme. On retrouve cette norme, par exemple, chez les Zapotèques au Mexique, les Mozo en Chine ou encore en Guinée-Bissau, chez les Bijago. Toutes ces sociétés matriarcales, matrilocales, matrilinéaires ont-elles une longue histoire? Elles ont toutes plus de 2000 ans. Leurs traditions sont très anciennes. Mais la plupart de ces sociétés ont disparu. Il n'en reste que quelques-unes, qui sont celles que j'ai pu rencontrer. Elles disparaissent pour trois raisons. D'abord, à cause des religions monothéistes patriarcales. En fait, à cause de toutes les religions, sauf les religions païennes. Lorsqu'ils se sont implantés dans des communautés aux traditions matriarcales, chrétiens et musulmans ne voyaient pas d'un bon œil la place importante qui tenait la femme. Ensuite, la deuxième raison de leur disparition, c'est la colonisation et tous ses dégâts. On en voit encore les conséquences aujourd'hui. Les colonisateurs ont bouleversé les sociétés matrilinéaires. Je pense à un exemple au Ghana, chez les Asanti. J'en parle dans le deuxième livre. Dans cette société, les reines-mères, qui étaient plusieurs, avaient un statut aussi important, si ce n'est plus important que le roi, qui, lui, était plus visible, mais elles étaient vraiment celles qui, derrière la figure royale publique, prenaient toutes les décisions. Or, lorsque les colonisateurs sont arrivés, ils n'ont traité qu'avec le roi, et n'ont accordé aucune importance aux reines-mères, qui ont perdu leur statut, même si elles commencent petit à petit à le retrouver. Il s'est passé la même chose en Guinée-Bissau, sur l'île de Kanabak, où un comité de femmes prend encore les décisions qu'elles transmettent ensuite au roi ou au chef du village, qui, à son tour, les transmet à la communauté. Et enfin, la troisième raison de la disparition de ces sociétés, c'est la mondialisation. Bien sûr, il est important pour beaucoup de gens de pouvoir accéder à de meilleurs moyens de communication, aux informations. Mais je pense à l'exemple des Mozo, une société matrilinéaire et matrilocale dans une région reculée de Chine qui compte environ 40 000 personnes et où le contrat de mariage n'existe pas. Dans la maison clanique Mozo, chaque jeune femme a sa propre chambre où elle peut recevoir son azu, son bien-aimé. L'azu, qui est uniquement un visiteur nocturne, s'introduit furtivement dans la couche de sa bien-aimée. Les femmes demeurent dans la maison de leur mère, tandis que les hommes se partagent une pièce et vont et viennent entre le foyer de leur mère et celui de leur amante. Depuis l'arrivée des téléphones portables et des réseaux sociaux, les jeunes ont conscience qu'en dehors de leur communauté, les personnes se marient. Désormais, ils considèrent que se marier, c'est moderne. J'ai moi-même vu l'accélération de la présence du téléphone portable entre le premier et le deuxième livre. Tout en assistant à ces bouleversements, je me méfie d'un certain regret extérieur face à la perte de ce qui pourrait être perçu comme du folklore. En effet, pourquoi ces personnes n'auraient-elles pas droit, elles aussi, au confort de certaines innovations désormais accessibles, même si nous connaissons tous aussi les travers de cette nouvelle technologie? Bien sûr, ces évolutions connaissent des nuances. Par exemple, en Indonésie, où les Minangkabau ont associé le droit coutumier, qui donne une place importante à la femme, avec l'islam, venu au XIIIe siècle. Sur l'île de la Grande Comore aussi, dans une société musulmane, c'est l'homme, polygame, qui se déplace d'une maison à l'autre et c'est la fille qui hérite. Vous écoutez, avec Nadia Ferrouki, un tour du monde du matriarcat. Une entrevue réalisée par Sabine Panet, parue le 1er juillet 2026 dans le magazine Axel. Votre deuxième livre n'est pas simplement une exploration complémentaire du premier. On sent un élargissement de votre regard sur les matriarcats. Vous intégrez aussi les femmes qui se mobilisent pour leurs droits, comme en Gambie par exemple, où vous vous intéressez à des femmes engagées pour l'abandon de l'excision. Le premier livre s'intéresse à des traditions millénaires qui existent encore aujourd'hui, qui ont su résister. C'est une forme d'introduction au concept de société matriarcale, matrilinéaire, matrilocale. Je me suis aperçu que c'était très peu connu. Et les livres d'anthropologie ne sont pas forcément faciles à lire. Je voulais traiter ce sujet de manière accessible et visuelle, tout en m'appuyant sur des légendes que j'ai entièrement écrites moi-même. Quant aux textes, ils sont le fruit d'une coécriture avec Daniel Ajoula, et certains reportages ont été réalisés avec une journaliste, Isabelle Girard, qui m'accompagnait lors de mes voyages. Je souhaitais avant tout m'intéresser au quotidien des personnes vivant dans ces sociétés, un aspect que la photographie permet de saisir et de rendre visible. Je ne voulais pas faire la même chose avec le deuxième livre. Certes, je voulais vraiment aller partout où vivent encore de telles sociétés, et je pense l'avoir fait. Mais je voulais en effet élargir. Lorsque j'ai été invité en Gambie dans une alliance française, structure de diffusion de la langue française, note de la rédaction, j'ai rencontré des femmes extraordinaires, mobilisées contre la pratique de l'excision. Je trouvais très important de les mettre en avant dans le livre, de même que je trouvais intéressant d'aborder la problématique de la polyandrie. Tout le monde connaît la polygamie, mais la polyandrie, non. Or, il y a des raisons pour lesquelles la société Nyingma au Népal pratique la polyandrie. Et puis, je devais aussi partir à la rencontre de combattantes au Kurdistan syrien, mais la frontière était fermée du côté irakien et je n'ai pas pu m'y rendre. Je veux visibiliser des histoires de femmes qui s'engagent pour les femmes, une sorte de féminisme, mais pas à l'occidental. On me demande souvent, est-ce qu'elles sont féministes, les femmes que vous rencontrez? La réponse est oui et non. Certaines ne se posent pas du tout la question dans ces termes et vivent en suivant leur tradition. D'autres, comme les femmes Samburu au Kenya, qui ont créé des villages pour se protéger des violences des hommes sont en revanche très explicites dans leur démarche. Est-ce que vous ressentez une forme d'urgence à faire connaître toutes ces sociétés, tous ces combats de femmes, alors que le contexte global très angoissant peut nous laisser penser qu'il n'y aurait pas d'alternative? Je suis très en colère avec l'Occident, encore plus en colère quand j'observe l'actualité géopolitique, climatique, sociale, les gens ouvertement racistes. Avec son approche paternaliste et coloniale, l'Occident a fait beaucoup de mal et continue pourtant à propager un modèle de modernité. Je trouve qu'il est urgent de regarder ces sociétés, pour la plupart dans les pays non occidentaux. Là, les femmes ont une place. Et pourtant, je parle du fin fond de l'Amérique latine, du fin fond de l'Asie, du fin fond de l'Afrique. Pourtant, dans les pays où résistent ces sociétés matriarcales porteuses d'une telle promesse d'égalité, les femmes n'exercent pas le pouvoir politique. En effet, il ne faut pas penser que ces sociétés sont idylliques pour les femmes. Elles ne sont pas parfaites. Les femmes n'y ont quasiment jamais le pouvoir politique, à quelques exceptions près. Elles ont plutôt le pouvoir économique, social, celui de la transmission. Est-ce que les communautés que vous avez rencontrées ont des espaces de dialogue entre elles? Je pense notamment à l'exemple de l'Union des communautés circumpolaires inuites qui, pour faire face aux dégâts de la colonisation de la Russie, du Canada, des États-Unis et du Danemark, et afin de se battre en faveur de leurs droits culturels, sociaux et climatiques, se sont rassemblés politiquement et pèsent désormais davantage dans les décisions qui les concernent. Non, pas à ma connaissance. Je crois qu'il serait très difficile pour elles de se rencontrer. Mais il est vrai que ces communautés partagent de nombreuses préoccupations liées à la situation mondiale, au changement du climat, et elles ont un rapport très fort à la nature. Je pense aux Bunong au Cambodge. Leur forêt sacrée est ravagée par des multinationales, dont l'une est détenue en partie par l'homme d'affaires français Vincent Bolloré. Les entreprises plantent à la place des EVA pour en extraire du caoutchouc. Sur place, Isabelle Girard et moi-même avons voulu un jour visiter l'une de ces exploitations. Un responsable nous a dit de revenir le lendemain, que la direction nous accorderait une interview, mais lorsque nous sommes revenus, le portail était fermé et les gardes ne nous ont pas laissé entrer. Ça en dit long. Je pense à un autre lien entre ces sociétés qui s'est fait au prétexte de mon travail. Quand je suis allé en Colombie à la rencontre des femmes Wayuu, j'avais pris un exemplaire de mon premier livre. Je fais toujours cela. J'organise des petits rassemblements pendant lesquels j'explique ma démarche en montrant les photos, en expliquant où je suis allé, qui j'ai rencontré, et puis j'offre le livre à la communauté. Avec les femmes Wayuu, à un moment donné, on tombe sur une photo du Kenya sur laquelle on voit des femmes Samburu se maquiller avec un pigment de terre rouge mêlé à de la graisse animale. Une femme colombienne s'est exclamée « Elles font comme nous ! » Notre diversité est ce qui fait la beauté de cette planète, mais finalement, on n'est pas si différents. C'était, avec Nadia Ferrouki, un tour du monde du matriarcat. Une entrevue réalisée par Sabine Panet, parue le 1er juillet 2026 dans le magazine Axel.
L'éthique. Un dossier de Pauline Gravel, paru le 16 juillet 2026 dans Le Devoir. Premier texte, les tiques ne transmettent pas seulement la maladie de Lyme. Il faut se méfier plus que jamais des tiques au Québec, car ces acariens peuvent non seulement transmettre la maladie de Lyme, mais aussi l'anaplasmose, la babésiose, l'encéphalite de Powassan et la fièvre récurrente, entre autres maladies. Le nombre de Québécois qui ont contracté l'anaplasmose a d'ailleurs augmenté ces dernières années. Depuis 2019, il est passé de quelques cas à une quarantaine par an. L'anaplasmose est causée par la bactérie Anaplasma phagocytophyllum, qui peut être transmise par la piqûre d'une tique à pattes noires, Ixodes scapularis, infectée. Contrairement à la maladie de Lyme qui engendre généralement une éruption cutanée rouge en forme de cible qui s'étend progressivement autour de la morsure, l'anaplasmose n'a pas de symptômes aussi caractéristiques. Une à deux semaines après la piqûre, la personne infectée pourra souffrir de fièvre, de frissons, de céphalées, de myalgies, de malaises gastro-intestinaux, rien de précis donc. Dans un article publié lundi dernier dans le journal de l'Association médicale canadienne, des chercheurs de l'hôpital d'Ottawa décrivent le cas d'un patient de 79 ans qui s'est présenté à l'hôpital en raison d'une grande fatigue, de frissons et d'une faiblesse généralisée ayant causé une chute. Durant les jours suivant son hospitalisation, on a relevé une baisse anormale du nombre de ses cellules sanguines et immunitaires, mais aussi l'apparition de maux de tête, d'une hypoxie et, plus grave encore, d'une myocardite aiguë, une inflammation soudaine du muscle cardiaque qui diminue sa capacité à pomper le sang. Vu ces symptômes et le fait que le patient avait récemment travaillé en forêt, on a suspecté l'anaplasmose ou la babésiose, deux maladies transmises par les tiques. Des tests sanguins ont confirmé qu'il s'agissait d'une anaplasmose et la maladie a été soignée par un traitement antibiotique à la doxycycline. Les auteurs de l'article recommandent d'ailleurs vivement d'administrer ce médicament avant même la confirmation du diagnostic, car l'anaplasmose peut entraîner des complications graves en l'absence de traitement. De la détresse respiratoire, une insuffisance rénale ou une méningoencéphalite peuvent notamment survenir chez les patients plus âgés ou atteints de maladies chroniques, comme le diabète. Vigilance en Estrie et en Montérégie. Bien moins fréquente que la maladie de Lyme, l'anaplasmose connaît tout de même une augmentation au Québec. Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec, 40 cas d'anaplasmose ont été déclarés aux autorités de santé publique en 2024, dont 37 acquis au Québec, surtout en Estrie, 29 cas, et en Montérégie, 4 cas. Les régions de la Mauricie, centre du Québec, de l'Outaouais, des Laurentides et de Montréal ont rapporté un cas chacune en 2024. L'équipe du laboratoire de recherche Une seule santé de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal collabore au réseau de surveillance des maladies transmises par les tiques au Québec. Elle ratisse l'Estrie et la Montérégie depuis 2019 et a ainsi été témoin de la croissance du nombre de cas d'anaplasmose à partir de 2021. On a testé des tiques rétrospectivement qu'on avait collectées en 2019, 2020, 2021. Et on s'est rendu compte qu'en Estrie, la prévalence d'infection par Anaplasma phagocytophyllum chez les tiques est passée de 1% à environ 9,5%. Donc, oui, il y a une émergence, mais évidemment, ça fluctue toujours avec les années, précise le vétérinaire épidémiologiste Jean-Philippe Rochelot, co-directeur du laboratoire. M. Rochelot souligne aussi le fait que la touche d'anaplasma phagocytophyllum qui affecte les humains touche également les animaux domestiques, comme les chats, les chiens et les chevaux, mais pas le cerf de Virginie, qui est quant à lui la cible d'un autre variant de la bactérie qui ne cause pas de maladie chez l'humain, d'après les connaissances actuelles. D'autres maladies. Les membres du laboratoire ont aussi mené des investigations sur la babésiose, une maladie parasitaire également transmise par les tiques qui infecte les globules rouges et provoque fièvre, grande fatigue et parfois des difficultés respiratoires chez l'humain. Ils ont trouvé peu de ces parasites sur les cerfs de Virginie de l'Estrie, indique M. Rochelot, qui précise que la souche qui infecte les cerfs ne rend pas nécessairement malade l'humain. On a néanmoins compté deux cas de babésiose acquis en Estrie en 2024. Les malades étaient âgés de plus de 60 ans et l'un d'eux a été hospitalisé. Deux autres pathologies peuvent être transmises par les tiques, l'encéphalite de Powassan et la fièvre récurrente. Mais les cas sont extrêmement rares, affirme M. Rochelot. L'encéphalite de Powassan est causée par un virus transmis par une tique à pattes noires, une tique des marmottes ou une tique des écureuils infectés. Mais très peu de tiques sont porteuses du virus, selon l'Agence de la santé publique du Canada. Néanmoins, deux cas d'encéphalite de Powassan ont été déclarés en Mauricie, centre du Québec, en 2024. aucun cas de fièvre récurrente n'a été rapporté en 2024 au Québec. Un article paru lundi dans le journal de l'Association médicale canadienne fait par contre état d'un homme de 51 ans, atteint de fièvre, de frissons, de céphalée, de difficultés respiratoires, de malaises gastro-intestinaux, d'éruptions aux bras et de vision trouble après avoir été mordu par des tiques en jardinant dans une zone rurale de la Colombie-Britannique. Des examens médicaux ont finalement conclu qu'il souffrait d'une fièvre récurrente causée par deux bactéries du genre Borrelia transmises par une tique molle, Ornithodoros, infectée. Contrairement aux tiques dures, comme Ixod scapularis, qui transmettent la maladie de Lyme et l'anaplasmose, les tiques molles sont extrêmement rares au Québec. Vous écoutez Les tiques, un dossier de Pauline Gravel, paru le 16 juillet 2026, dans Le Devoir. Deuxième texte. Comment les tiques transmettent-elles des maladies en forêt ? Le processus par lequel les tiques contractent des pathogènes et qu'elles les transmettent aux humains a été mis en lumière par des chercheurs de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Fort de ces informations, ces chercheurs expérimentent maintenant des mesures de prévention visant à nous protéger des infections, la maladie de Lyme et l'anaplasmose qui découlent de leurs piqûres. Afin de déterminer comment les tiques acquéraient ces pathogènes en estrie, les chercheurs ont capturé des animaux vivant dans les forêts de cette région qu'ils ont brièvement anesthésiés afin de prélever de leur sang, de procéder à des biopsies de leurs oreilles et de collecter les tiques qui étaient attachées à leur peau. La vétérinaire Raphaëlle Audet-Legault, qui a réalisé ce projet de recherche, a ainsi noté que les tamias rayés étaient particulièrement nombreux à être porteurs de bactéries pathogènes pour l'humain. Elle a relevé des taux d'infection par la bactérie Anaplasma phagocytophyllum responsable de l'anaplasmose de 60 à 70% chez ces petits rongeurs. Elle a également constaté que les souris à pattes blanches constituaient le second réservoir en importance de cette bactérie. Les chercheurs ont aussi remarqué que ces deux espèces de petits mammifères sont aussi les plus grandes responsables de la transmission de la bactérie Borrelia burgdorferi qui cause la maladie de Lyme. Plusieurs autres espèces animales, telles que les musaraignes et les campagnols, sont impliquées dans ces cycles de transmission, mais à moindre échelle, ajoute Jean-Philippe Rochelot, vétérinaire, épidémiologiste et professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Qu'en est-il des cerfs de Virginie qu'on a souvent accusés d'être porteurs de la maladie de Lyme ? Les cerfs ont été incriminés avec raison pour avoir amené de très grandes populations de tiques dans nos régions. Mais ce ne sont pas eux qui portent et transmettent l'infection, souligne-t-il, avant d'expliquer plus précisément la chaîne de transmission de l'infection. Le cycle des tiques. Les tiques adultes se reproduisent et pondent des milliers d'œufs sur le cerf de Virginie, explique le professeur Jean-Philippe Rochelot. Ils traversent ensuite trois stades, ceux de larves, de nymphes et d'adultes. Les œufs et les larves ne portent pas de bactéries pathogènes. Ce n'est que lorsque les larves se nourrissent pour se muer en nymphes qu'elles risquent d'acquérir ces pathogènes si elles se gorgent du sang d'un petit mammifère infecté, par exemple. Une nymphe infectée de cette manière le restera à l'âge adulte. Une nymphe peut aussi devenir infectée en prenant le repas de sang qui lui permet de se transformer en adulte. Enfin, les femelles adultes consomment un dernier repas avant de pondre leurs œufs. Ce sont donc seulement les piqûres de nymphes et d'adultes infectés qui peuvent nous contaminer, nous, les humains. Mais comment larves, nymphes et adultes trouvent-ils l'animal sur lequel ils se nourrissent ? Les larves vont grimper sur la bordure d'une feuille morte ou sur une plante très basse puisqu'elles sont sensibles à la déshydratation. Une fois qu'elles se sont accrochées à la peau d'un animal, les larves se gorgent de son sang, puis retombent au sol. Plusieurs mois passeront avant que sa mue s'opère. Les nymphes, quant à elles, se mettent en quête de nourriture en grimpant un peu plus haut dans les plantes, car elles sont un peu plus résistantes que les larves. Les adultes, pour leur part, peuvent monter jusqu'à 70 cm du sol. Les pattes antérieures de ces tiques adultes repèrent leurs possibles hôtes en détectant le CO2 dégagé par leur respiration ainsi que leurs mouvements à proximité de la plante sur laquelle elles sont posées. Elles s'accrochent très efficacement à nous et en général elles vont grimper sur nous jusqu'à ce qu'elles trouvent un endroit où elles peuvent piquer. Mais cela leur prend un certain temps. La tique cherche un peu avant de prendre son repas, fait remarquer Jean-Philippe Rochelot. D'où le fait que si on détache la tique de notre peau, moins de 24 heures après que la tique s'est accrochée sur nous, le risque est presque nul qu'il y ait eu transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Ce laps de temps serait par contre moins long pour la bactérie responsable de l'anaplasmose. Et si la tique doit grimper longtemps sur des vêtements et qu'elle ne trouve pas nécessairement une surface de peau intéressante en temps voulu, elle va peut-être se laisser tomber. Et si en plus on a appliqué du chasse-moustique sur nos vêtements, ce dernier la repoussera et elle se décrochera encore plus rapidement, poursuit le vétérinaire qui démontre ainsi le bien fondé des consignes de prévention. Piste de prévention. Grâce à cette meilleure compréhension des cycles de transmission, les chercheurs ont expérimenté des interventions de prévention. Une première, effectuée en Estrie et en cours en Montérégie, a consisté à introduire dans la nature de petites boîtes à appât pour rongeurs, qui constituent un grand réservoir de bactéries transmissibles par les tiques, dans lesquelles on a déposé des acaricides, des médicaments vétérinaires qu'on donne aux chiens et chats pour se débarrasser des tiques. Quand les tiques vont se nourrir sur les mammifères qui ont consommé ces acaricides, elles meurent. On a obtenu des résultats intéressants, mais on est encore loin d'un produit qui serait commercialisable, affirme M. Rochelot. Aussi, dans le cadre du projet Parc en Santé, on a combiné des appâts d'acaricides ciblant les souris et les tamias à l'aménagement d'exclos empêchant les cerfs de Virginie de pénétrer dans certains territoires afin de voir si, en contrôlant ces trois espèces, on infléchit le cycle de transmission ou s'il perdure malgré tout à cause d'autres espèces animales, explique le chercheur. Ce projet se base sur l'hypothèse selon laquelle, si on empêche le cerf de Virginie d'aller sur un certain territoire, on diminue en théorie la population de tiques dans celui-ci. Et si les tiques qui y sont déjà meurent en se nourrissant sur des tamias et des souris traitées aux acaricides, il ne restera plus qu'un très petit nombre de tiques non infectées dans l'environnement. C'était « Les tiques », un dossier de Pauline Gravel, paru le 16 juillet 2026 dans Le Devoir.